19h30 sur CNews et c'est la suite de Face à Mathieu Bock-Côté, toujours avec Mathieu bien sûr et Arthur de Vatrigan. Philippe Fabry nous a rejoint, merci d'être sur le plateau. Vous êtes historien, essayiste, vous avez écrit entre autres Nouveau clivage gauche-droite. Vous parlez de l'islamo-gauchisme, du populisme et ce nouveau clivage gauche-droite. Pourquoi avoir invité Philippe Fabry sur notre plateau ce samedi soir, Mathieu?
Parce que je lis Philippe Fabry toujours avec intérêt et perplexité. C'est-à-dire que je le trouve passionnant. Il me convainc une fois sur deux, peut-être deux fois sur trois. Mais le fait est qu'il est parmi les intellectuels, ceux qui posent avec le plus de... je dirais de perspicacité, la crise de régime que traverse la France dans une perspective historique. La plupart des commentateurs de la vie politique se contentent d'évoluer dans le petit terrain de jeu du commentaire obligé. Lui nous invite à penser ça à la lumière de l'histoire, à penser la question du régime. Et puisque les circonstances apparemment disent qu'il y a crise de régime en France, c'est un bon invité, je crois. Philippe Fabry, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, question première, mais qui nous conduira à la crise de régime très rapidement. La nouvelle, l'info du jour en matière de politique française, c'est la décote française, la perte de crédibilité financière et économique de la France. Pour vous, est-ce que c'est un élément qui est un élément plutôt technique ou que c'est de nature à accélérer, radicaliser la crise de régime dont nous parlerons?
Alors, je pense que ça accélère. Ce qui caractérise les périodes de crise comme celle dans laquelle on est entré, c'est que la plupart des acteurs sont soumis à des choix contraints, c'est-à-dire que leurs options sont tout à fait limitées. Que ça, tout un tas de portes qu'ils ont habituellement pour résoudre les petites crises, justement, sont fermées. C'est ça qui fait que les crises s'accumulent. Par exemple, sur un problème budgétaire, d'habitude, on peut lâcher du lest. Et ça, c'est une porte qui se ferme et qui se ferme de plus en plus. Et avec la baisse de la notation, clairement, alors que avec le cornu qui arrivait, on pouvait dire peut-être que lui allait essayer d'être plus souple, un petit peu plus souple que François Bayrou, clairement, c'est un nouveau signal qui lui est envoyé que c'est une solution qu'il n'a pas tellement.
Alors, crise de régime, c'est un terme auquel je tiens, que j'approfondis. Je crois que c'est une analyse que vous faites aussi à votre manière. Peut-être me corrigerez-vous, mais comment comprenez-vous la crise de régime aujourd'hui? Sommes-nous, on pourrait dire, une forme d'équivalent historique de la crise de la 4e République qui nous conduit à la 5e? Est-ce qu'il y a une forme d'équivalence pour les deux, pour vous?
Alors, c'est pas avec celle-ci que je ferai le rapprochement. On est plutôt à la situation qui était celle qui a présidé à l'apparition de la 4e République, en fait. Les exemples que je prends en général, c'est plutôt 1871 avec la chute du Second Empire et même 1789. C'est-à-dire que c'est une situation dans laquelle il faut bien se rendre compte que structurellement, le régime politique français est un régime qui est tout à fait différent de ce qu'il y a chez nos voisins. C'est-à-dire que c'est un régime qui ne correspond pas à ce qu'on appelle les standards démocratiques européens, à ce qui se passe chez tous nos voisins. C'est-à-dire que chez tous nos voisins, il y a toujours eu une très importante prééminence du Parlement, avec un débat parlementaire qui est extrêmement important. Chez nous, la puissance de la fonction présidentielle, qui avait été instaurée par De Gaulle, mais qui n'a fait que s'aggraver encore depuis, avec l'instauration du quinquennat, enfin, il est tombé du côté où il penchait plutôt, cet arbre de la Ve République, nous met dans un système, en fait, faut se rendre compte, je le dis, ça peut paraître caricatural aux gens, mais je le disais avant 2022, donc ça peut être moins choquant, on a la même constitution que la Russie, au niveau de la distribution des pouvoirs. Donc on a une puissance présidentielle qui est extraordinaire en France. Et on l'a vu d'ailleurs ces dernières années avec un problème très fort qui est que ça tue à peu près tout débat, qu'on a un commentaire politique depuis des décennies maintenant qui ressemble beaucoup à ce qu'on appelle la kremlinologie, c'est-à-dire le fait que pour savoir pourquoi les décisions sont prises, il faut plutôt connaître les bruits de couloir à l'Élysée que les véritables débats parlementaires à l'Assemblée. Et tout ceci, c'est ça qui me faisait dire il y a quelques années que ça ne pouvait pas durer et qu'on allait probablement voir une crise entre l'exécutif et un législatif qui allait un petit peu se rebeller. Et il me semble que c'est ce qu'on voit depuis un an.
Alors, si on pense à la crise de régime, moi, j'ai l'impression, quelquefois, qu'elle s'explique beaucoup par le fait qu'au fil des ans, des autorités nouvelles ont pris un pouvoir démesuré. On pense au Conseil constitutionnel, par exemple, qui a autoproclamé qui a étendu ses pouvoirs de manière autonome, a décidé, au nom du bloc de constitutionnalité, de l'interprétation des textes. Donc, d'un côté, le Conseil constitutionnel. De l'autre, la multiplication des autorités administratives qui fait en sorte qu'on est avec une forme de perte de substance de la souveraineté démocratique. Pour vous, est-ce que ça touche à la crise de régime dont on parle aujourd'hui?
Tout à fait. D'ailleurs, ça avait été malgré tout prévu par quelqu'un qu'on connaît bien, qui s'appelait François Mitterrand, qui avait écrit Le coup d'État permanent, dans lequel il expliquait que la structure de la Ve République finirait par amener à une dérive technocratique qui viderait de ses pouvoirs le Parlement. Et c'est effectivement ce qu'on a vu, c'est-à-dire la technocratie, ça concerne aussi un certain nombre de juridictions, dont le Conseil constitutionnel, dont il ne faut pas oublier non plus qu'initialement, il doit servir à protéger le président de la République contre le Parlement. C'était ça l'idée de base, de garantir les prérogatives du président de la République, ce qu'il a fait de plus en plus. Et un exemple paroxystique de ça, ça a été la censure de la loi immigration contre, c'était très important la censure de l'immigration, on n'a pas insisté assez là-dessus.
À la demande d'Emmanuel Macron.
Ah, c'est-à-dire c'était à la demande d'Emmanuel Macron, et ce qui a fait qu'à la fin a été promulgué un texte qui non seulement n'était pas celui que le Parlement avait voté, mais qui grosso modo était celui que le Parlement avait explicitement rejeté par une motion de rejet. Donc c'est très très grave, c'est-à-dire qu'on a un Conseil constitutionnel qui a grosso modo aboli la puissance du Parlement, ainsi qu'avec d'autres, notamment en abolissant ce qui était en fait la réforme constitutionnelle de 2008, où on avait tenté de revenir un petit peu, je ne veux pas être trop technique, mais on avait essayé de revenir sur une puissance donnée au Parlement avec les fameux cavaliers législatifs, qui était un outil de censure habituel du Conseil constitutionnel. La modification constitutionnelle de 2008 a essayé d'enlever ce pouvoir au Conseil constitutionnel, et avec ses dernières interprétations, le Conseil constitutionnel a dit non, non, en gros, je continue de censurer comme je veux sur ces choses-là. Donc effectivement, c'est tout un système qui fait que, grosso modo, c'est l'exécutif qui commande. Et quand vous avez un exécutif qui commande et qui cherche à maintenir sa prééminence, qui est le cas avec Emmanuel Macron, on le voit encore avec le Premier ministre qu'il a nommé au terme de la dernière crise, forcément, il y a un moment où ça risque de sauter.
Arsène Lafrigan.
Justement, vous l'avez dit, nous n'avons pas en France la culture du parlementarisme ou des coalitions, contrairement à nos amis ou voisins allemands et italiens, mais par la force des choses, au vu de l'éclatement du Parlement, et Fourquet avait, je crois, dit qu'il n'y avait pas une seule personne qui dépassait 50%, donc un président qui serait illégitime. Est-ce qu'on ne va pas devoir changer de culture, implanter une nouvelle culture ?
Alors, je pense même que l'arrivée de la nouvelle culture est un phénomène émergent et naturel de l'évolution de la société. C'est-à-dire que la culture parlementaire, on l'a eue, faut pas oublier ça. Souvent, on reproduit cette espèce de récit, qui est un récit un peu de légitimation du général de Gaulle d'ailleurs, en disant qu'au fond, en France, le parlementarisme, ça fonctionne pas. On a eu un parlementarisme exactement comme tous nos voisins pendant 70 ans sous la Troisième République. Et ça fonctionnait, on a gagné une guerre mondiale, bon, on a perdu la deuxième, ça arrive, mais grosso modo, ça fonctionnait. Ça aurait pu fonctionner aussi, d'ailleurs, ça fait partie un petit peu j'ai envie de dire, des mensonges fondateurs de la Ve République, qui veulent faire croire que c'était une nécessité de passer à la Ve République, alors que ça ne l'était pas. De Gaulle aurait pu lâcher l'Algérie en arrivant au pouvoir comme président du Conseil, repartir, et on aurait eu une démocratie normale, comme chez tous nos voisins. Et ce qui est très intéressant là-dedans, précisément, c'est que le fait qu'on ait un retour du débat parlementaire d'absence de majorité, je pense que ça produit une repolitisation de la société elle-même. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que le fait que les débats soient publics et qu'on parle beaucoup plus de questions qui, habituellement, personne ne parlait de débats budgétaires. Les débats budgétaires, c'était quelque chose qui se faisait automatiquement. Tout le monde s'en empare. Il y a une opinion publique qui se recrée dessus, et tout ceci crée une tendance, un mouvement qui, à mon avis, ne peut pas être réinversé d'un claquement de doigts.
Alors, on viendra dans un instant à... Vous avez utilisé une formule, hein, ça peut sauter, ça peut craquer. Mais juste avant ça, j'aimerais avoir votre regard sur ce qui s'est passé cette semaine. C'est-à-dire, vous avez parlé de la criminologie, presque l'équivalent, donc l'attente du Premier ministre. Est-ce que le commentariat politique surchargeait d'importance cette nomination nouvelle? Est-ce que pour vous, c'est un événement politique, la nomination de Sébastien Lecornu, ou c'est une espèce de dernier spasme de régime agonisant?
Alors, je pense que c'est quand même un événement politique, déjà parce qu'il y a eu la chute de François Bayrou qui cause cet élément-là, et c'est quand même notre deuxième chute de gouvernement sur un problème de vote au Parlement en moins d'un an, alors que ça faisait 60 ans que c'est pas arrivé. Donc déjà, en soi, ça, c'est un événement. La décision de nommer M. Lecornu, c'est important et c'est significatif, parce que ça veut dire qu'Emmanuel Macron refuse encore de lâcher son pouvoir. Il a refusé la dissolution. Je pense qu'il n'était pas tout seul. À mon avis, Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher étaient d'accord là-dessus, parce qu'ils ont un petit peu peur du chaos, et notamment, ils avaient peur de la dégradation de notes si jamais il y avait une instabilité gouvernementale. Mais il y a un côté dernière cartouche. Je crois que c'est Marine Le Pen qui a employé cette expression. Une tentative du président de la République de conserver la main contre un Parlement qui est effectivement majoritairement favorable à trouver une autre solution. Alors, vous avez LFI qui est plutôt pour la démission, vous avez le Rassemblement national qui est plutôt pour la dissolution, et vous aviez les gens du centre qui étaient pour la nomination d'un nouveau Premier ministre du socle commun. C'est finalement ce choix-là qu'a fait Emmanuel Macron, mais donc c'est une tentative de maintenir encore le système. Alors que le gros problème, c'est que... Je termine là-dessus. Il y a une idée, je pense, encore chez Emmanuel Macron et un certain nombre d'autres, que grosso modo, ce moment-là où on n'a plus de centre majoritaire, c'est temporaire et ça va passer. Voilà. Vous avez mentionné mon livre sur le clivage tout à l'heure. Une des choses que j'explique, c'est que ce qui fait qu'un régime tient, c'est que vous avez deux tiers des personnes qui sont ce que j'appelle les conformistes, c'est-à-dire des gens qui sont d'accord sur le régime. Et ce que j'appelle les anticonformistes, c'est-à-dire ce qu'on appelle les extrêmes, sont des gens qui sont hostiles au cadre lui-même. Et depuis un an, on est dans un système dans lequel les gens qui sont hostiles au cadre lui-même sont de plus en plus nombreux. Et ce n'est pas le genre de crise que vous arrivez à résoudre juste en laissant du temps passer, en mettant un couvercle sur la marmite. Il y a un moment où il faut accepter de renégocier l'ensemble du compromis social. Et il y a un côté hypothèse révolutionnaire là-dedans parce que ça implique de faire beaucoup de changements très lourds.
Mais qu'est-ce que ça voudrait dire justement ? Dans votre esprit, si la France veut sortir de cette période à la fois d'impuissance politique, d'obésité bureaucratique, de clivage qui détruisent la société plutôt qu'ils ne la fécondent, quelle serait selon vous une voie de sortie et peut-elle être pacifique ?
Alors, pacifique, il y a des révolutions qui se font de manière plus ou moins pacifique, effectivement. La question, c'est de savoir la résistance qui est opposée. En gros, il faut modifier tout ce qui sont devenus les piliers du régime depuis 50 ans. C'est-à-dire le rôle des médias subventionnés et de l'audiovisuel public, qui est extrêmement problématique. Et certains piliers économiques, comme l'héritage ou la façon dont a évolué l'héritage du Conseil national de la Résistance, avec notamment la question du système des retraites. C'est un autre pilier, ça. Toute la sécurité sociale, de manière générale, comment est-ce qu'on le finance ? Je ne vais pas entrer dans les détails techniques, mais enfin, on a un système bâtard entre le bismarckien et le beveridgien qui ne fonctionne pas. Donc il y a un moment où il faut savoir, est-ce qu'on continue à faire tout peser sur le travail ou est-ce qu'on commence à financer par l'impôt ? Et à ce moment-là, on change de système parce qu'on fait peser un système de protection sociale universel juste sur le travail. C'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs, donc c'est pas possible. Si on veut de l'universel, faire sur l'impôt. Si on veut uniquement sur le travail, c'est quelque chose qui dépend des cotisations sur le travail. Donc voilà, ça fait tout un tas de piliers comme ça qu'il faut repenser. Et le dernier, c'est ce que moi j'appelle le consuméro-immigrationnisme, c'est-à-dire le système qui est au cœur de la Ve République depuis les années 70, c'est-à-dire un système qui utilise l'immigration de masse, c'est pour ça que nos élites sont aussi hostiles et contre la population à revenir sur ce système-là, qui utilise l'immigration comme un système de subvention à tout un tas de secteurs de l'économie, en fait. Puisque ça permet d'utiliser la solvabilité des contribuables français. Vous savez, souvent, on entend dire que si on donne de l'argent aux Français, ils l'épargnent. Et c'est pas ce que veut Bercy, puisque Bercy veut qu'il le consomme. Donc pour qu'il le consomme, il faut le donner à des gens qui n'ont rien. Donc vous importez des gens qui n'ont rien, vous leur donnez de l'argent pour qu'ils consomment. Et ça nourrit la grande distribution, ça soutient le secteur du bâtiment, tous les secteurs qui sont vraiment au cœur du système économique de la cinquième. Donc ça fait beaucoup de choses sur lesquelles il faut revenir.
Arthur de Vatrigan.
Vous avez dit très justement que les Français se réintéressaient de plus en plus à la chose publique, mais on a le sentiment que plus ils s'intéressent à la chose publique, plus le fossé entre, pour parler comme un macroniste, entre les gens du haut et les gens du bas s'agrandit. La question, c'est comment les élites et le peuple peuvent recommunier dans un imaginaire commun, comment ils peuvent se comprendre à nouveau. On a l'impression que c'est un divorce qui ne pourra jamais être réglé.
En général, ça fait partie des changements révolutionnaires, c'est qu'il y a un renouvellement très important des élites. À la veille de toute révolution, vous avez ce que j'appelle les élites sédimentaires. C'est-à-dire que vous avez à peu près, si on regarde les différents exemples historiques, on s'aperçoit qu'il y a à peu près 50% des élites qui sont évacuées, qui sont remplacées lors d'une révolution. C'est en général des élites qui sont là par héritage, par réseau social, par des choses qui existent en fait depuis 50 ans, mais qui n'ont plus la compétence qui justifie leur positionnement, ce qui fait qu'elles perdent toute légitimité. Et je pense qu'une des impressions qu'on a, que le personnel politique en général perd en compétences de manière continue depuis 50 ans, ça vient en grande partie de là. On a eu un espoir de renouvellement au moment de l'arrivée d'Emmanuel Macron, parce qu'il y a eu une espèce déjà de dégagisme. C'était un dégagisme poli, j'ai envie de dire, au moment d'Emmanuel Macron. Les Français ont eu l'air de dire, bon, on vous laisse une dernière chance, on les change tous et puis on voit ce que ça donne. Ça n'a pas fonctionné, puisqu'en fait, on a gardé tout un tas, je pense, c'est mentionné souvent ces derniers temps sur les antennes, le fait que vous avez un parti socialiste, par exemple, qui tient tout un tas de postes de pouvoir alors qu'ils n'ont plus de représentation, plus de poids électoral. Etc. Ce genre de choses qui posent des problèmes et qui ne sont possibles précisément que grâce à la structure technocratique de la Ve République.
Alors, vous avez parlé de dégagisme. Cette semaine, il y a eu un moment qui aurait pu être un moment dégagiste, entre guillemets. C'était le bloc en tout du 10 septembre. Alors, moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'est un mouvement qui est plutôt né à droite. C'est-à-dire presque une forme de moment poujadiste, néo-poujadiste, une révolte fiscale, une exaspération de Nicolas qui paye, une colère contre le sentiment de spoliation, le braquage fiscal. Et à terme, repris par Jean-Luc Mélenchon, confisqué par LFI et probablement par les différents mouvements d'ultra-gauche qui sont spécialistes de la casse dans la rue, est-ce qu'on n'est pas devant un moment de un soulèvement populaire confisqué? Ou il ne faut pas donner trop d'importance à cette séquence?
Alors non, je pense que c'est une séquence qui est très très importante. Soulèvement populaire confisqué, oui, mais alors Le truc, c'est que si c'est un soulèvement populaire de droite, la droite ne fait pas de soulèvement populaire de manière générale. Les gens de droite ne sont pas contents.
Elle espère l'homme providentiel ou la victoire parlementaire.
Et ça se retrouve aux élections. D'ailleurs, c'est Jordan Bardella qui l'a formulé comme ça en disant la droite, elle manifeste pas, elle ne casse pas dans la rue, elle va aux élections. Et je pense que c'est ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux avec les tenants de Nicolas Kippé qui ont dit nous, on ne s'associe pas à ça. De toute façon, le mercredi, on ne peut pas en travail. Donc il y a toujours l'idée que la droite, elle ne peut pas, elle travaille les jours des manifestations. Et de toute façon, quand le moment révolutionnaire, j'ai envie de dire, le moment où ça casse, en général, c'est toujours la gauche qui fait ça. La droite s'occupe de recréer quelque chose après.
Arthur de Vatrigan.
Il y a eu quand même une manifestation populaire, je ne sais pas si on peut dire de droite, mais en tout cas, au départ, ce n'était pas vraiment de gauche, c'était les Gilets jaunes, et qui a duré un certain temps.
Oui, tout à fait. C'était très intéressant, les Gilets jaunes, parce que le message politique n'était pas très compliqué à entendre si on faisait preuve d'un petit peu de bonne foi. Mais de la part du pouvoir, il y a eu beaucoup de ricanements. C'est-à-dire que ce que disaient les Gilets jaunes, en gros, ils disaient on paye trop, et de l'autre côté, ils disaient on n'a pas de service public. Alors, nos élites ont beaucoup ricané en disant mais vous demandez tout et son contraire. Alors qu'en réalité, le fond du message, c'était on n'a pas les services publics pour ce qu'on paye. C'est ça la véritable idée. Et ça, c'est un message qui n'a pas été entendu. Mais en plus, ça a été très court, parce qu'encore une fois, effectivement, manifestation à droite. La première journée des Gilets jaunes a vraiment été comme ça, c'est quand il y a vraiment eu l'arrivée des gens sur les ronds-points. Après, déjà, dès que ça a commencé à casser, c'est un mouvement qui s'est gauchisé de plus en plus, on s'en souvient. Et voilà, donc la droite peut manifester un jour comme ça, mais c'est pas par la rue en général qu'elle arrive à faire ces modifications. Mais elle peut les faire entendre par la classe politique.
Alors, vous nous parlez d'un régime qui peut craquer, qui peut sauter, je reprends votre formule. Vous présentez une voie de sortie politique, c'est-à-dire s'il y a la réforme des grands piliers que vous avez évoqués, les piliers du régime. Le scénario pessimiste chez vous, le scénario où le régime ne parvient pas à se réformer et où ça craque, ça ressemble à quoi?
Ça ressemble à l'Ukraine en 2014. C'est l'exemple le plus proche, c'est-à-dire des manifestations très importantes dans les rues qui montent en pression et un président qui finit par être... Alors, plus ou moins par partir et qui est destitué par l'Assemblée. C'est ça qui s'est passé.
Et ça, c'est un scénario, dans votre esprit, d'ici 2027?
Alors oui, c'est possible. Il ne faut pas oublier que Yanukovych, il est parti un an avant la fin de son mandat. Donc même une perspective d'élection, si les gens sont vraiment trop tendus, ça ne suffit pas pour faire retomber la pression. Ça peut ne pas suffire. Et j'étais assez d'accord avec ce que disait Emmanuel Bompard, paradoxalement l'autre jour, quand on lui disait « mais cette destitution n'a aucune chance de passer », il avait répondu « écoutez, vous nous disiez déjà que la motion de censure n'avait aucune chance de passer, et une semaine après, François Bayrou nous a annoncé qu'il allait démissionner. Et les tensions sociales continuent à monter, il y a quand même un mouvement qui est encore plus important jeudi prochain, a priori, avec cette fois-ci les syndicats, etc. Si ça monte, que M. Le Cornu a des difficultés à faire passer un budget, qu'il tombe à nouveau lui aussi, la pression va très vite revenir sur le président de la République.
Est-ce que vous craignez, dans la séquence qui s'ouvre, alors qui est déjà ouverte, mais qui risque de s'accélérer, craignez-vous un basculement vers la violence? Je ne parle pas de violence résiduelle, celle des Black Blocs qui ont leur rituel d'affrontement avec les policiers, mais craignez-vous un moment où les brèches s'ouvriraient et la violence contaminerait la société plus largement?
Alors ça, c'est tout à fait possible, mais il faut bien se rendre compte que la violence, elle existe déjà. En France, la violence est à des niveaux politiques considérables. Parce que le truc, c'est qu'on la décompte souvent mal. Quand vous regardez la vraie violence politique, par exemple, elle est souvent décomptée entre extrême droite, ultra-gauche et islamiste. Hein, c'est souvent comme ça que c'est décompté. Du coup, ça permet de falsifier les résultats, parce que la réalité, ce que j'explique dans le livre sur le clivage, je ne vais pas partir dans les détails, mais la violence islamiste aujourd'hui, elle est structurellement d'ultra-gauche. Donc c'est la même chose. Vous avez aujourd'hui, dans le cadre de la violence politique, je pense qu'on devrait qualifier comme violence politique toute une part de la violence qui est liée au narcotrafic. Par chez moi à Toulouse, on a eu des militants d'ultra-gauche qui ont été arrêtés pour trafic de drogue. Ce sont des milieux qui sont extrêmement poreux. C'est quelque chose qui commence souvent à ressembler à ce qu'on a vu souvent en Amérique du Sud, où il y avait une très grande porosité entre les mouvements d'ultra-gauche et le narcotrafic. Vous avez ça, et puis de manière un petit peu plus légère, mais c'est quand même pénible aussi, vous avez tout un certain nombre d'associations d'ultra-gauche qui organisent des squats. Alors, c'est pas de la violence contre les personnes, mais c'est de la violence contre les biens. Donc, tout ceci, à la fin, vous avez un niveau de violence politique qui est quand même un niveau au-dessus de ce qu'on...
Mais qu'on refuse de nommer. Autrement dit, le discours public est complètement... Il est en retard sur la réalité.
Ah, je pense tout à fait, oui. Je pense qu'on a beaucoup de hier à ce niveau-là.
Arthur de Vatrigan.
Et beaucoup d'actus politiques se succèdent les unes aux autres. Donc peut-être qu'on a oublié qu'à cette rentrée, en début de rentrée, il y a eu un conflit, en tout cas un grand sujet qui a fait débat. Et je reprends donc l'expression préférée d'Eliott, les boomers. Est-ce qu'on assiste au chant du cygne de la génération boomer en politique?
Vraisemblablement aussi, oui. Je pense qu'il y a quelque chose qui joue de ce côté-là. Parce que mine de rien, la génération des millennials, dit-on, c'est la mienne, hein, c'est les gens qui sont nés dans les années 80, eux n'ont jamais fait leur mai 68. Je veux dire, quand ils ont eu 20 ans, on leur avait expliqué pendant toute leur jeunesse qu'ils risquaient d'être au chômage. Donc c'est une génération qui a travaillé, qui est arrivée sur le marché du travail et qui s'aperçoit en arrivant justement autour de 40 ans qu'eux, ils n'auront pas de retraite. En tout cas, c'est une croyance qui est de plus en plus répandue. Et ça crée un conflit de génération. Et ce qu'on a pu observer ces dernières années sur les réseaux sociaux, c'est que ça a commencé par des suggestions qu'il fallait rééquilibrer le système de retraite et qui a rencontré énormément d'agressivité de la part justement de la classe d'âge des boomers. Et donc on a des tensions, on a vu, ceux qui sont sur les réseaux sociaux ont vu, je pense, depuis 2-3 ans, les tensions se radicaliser là-dessus.
Il nous reste le temps d'une dernière brève question. On dit souvent que la France est incapable de se réformer, qu'elle ne connaît que des moments révolutionnaires. Est-ce qu'il y a une séquence réformiste raisonnable qui peut se jouer presque à l'anglaise devant nous dans les prochains mois, dans les prochaines années?
Alors, vu la façon dont les choses évoluent depuis 2 ans, ça me paraît extrêmement compliqué.
Eh bien, un grand merci, Philippe Fabry. Je rappelle que vous êtes historien essayiste et que vous avez écrit, entre autres, « Islamo-gauchisme, populisme, le nouveau clivage gauche-droite ».